du Seigneur dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15. De Chroniques, chapitre 15, nous lirons les versets 1 à 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Voilà un texte qui nous parle de temps et de circonstances particuliers, mais en même temps, il a une portée générale. Il y a des vendeurs de lait qui passent de porte en porte pour proposer le lait, donc que les gens achètent, ils peuvent acheter donc une bonne dose de lait, etc. Et puis un jour, il y avait un évangéliste qui s'adressait, un païen plutôt, qui s'adressait à un évangéliste indien et lui a demandé « Comment se fait-il, si votre évangile est vrai, que vous soyez obligé d'aller l'annoncer de lieu en lieu? Les gens ne devraient-ils pas venir tous vers vous ?» Alors l'évangéliste lui a répondu « Qu'est-ce qui est le meilleur, du lait ou de l'alcool ?» Alors, l'autre a dit, assurément, c'est le lait qui est meilleur. Et très juste, mais est-ce que vous avez remarqué que le marchand d'alcool reste toujours au même endroit? Les gens viennent le trouver, mais le marchand de lait, lui, est obligé d'aller de porte en porte avec sa petite voiture pour proposer sa marchandise. Et c'est ainsi qu'avec l'évangile, qui est du lait pur, nous devons aller de porte en porte. Et nous avons ce passage de l'épître, la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 4, versets 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Quel précieux évangile nous avons. Amen. Et dans la suite de notre message de ce soir, qui va suivre notre texte, nous pourrons voir successivement sept grandes nécessités. La première, c'est la nécessité d'écouter, c'est ce qu'on voit au début du verset 2. Ensuite, la nécessité de bien saisir le grand principe qui régit les relations entre Dieu et l'homme. Donc ça, c'est la suite du verset 2. Ensuite, il y a aussi une troisième nécessité, celle de réaliser les trois grands fondements sur lesquels quelque chose de valable et d'éternel peut être construit. Ça, c'est dans le verset 3. Et puis vous avez en quatrième la nécessité de considérer le témoignage de ceux qui ont cherché et trouvé Dieu. C'est le verset 4. Et puis aussi, il faut réaliser une autre nécessité, celle de réaliser la cause profonde des troubles qui agitent ce monde. C'est les versets 5 et 6. Et puis vous avez en sixième la nécessité de se fortifier et de se mettre à l'œuvre. Là aussi, verset 7, et nous voyons l'illustration de la chose, la mise en pratique de la chose du verset 8 jusqu'au verset 15. Et puis enfin, la nécessité de croire à la récompense, de croire au salaire que Dieu veut accorder. C'est ce qu'on voit aussi dans la fin de ce verset 7, et il est bon que nous considérions successivement ces différents points. Donc la première nécessité, c'est celle d'écouter. Azaria s'adresse, donc va au devant d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi. » Combien est important d'écouter la parole de Dieu, de l'écouter avec attention, de l'écouter avec beaucoup de soin, parce que c'est de cette façon-là qu'elle nous sera profitable. Il y a une grande différence, rappelons-le, entre écouter et entendre. Nous entendons toutes sortes de choses toute la journée. Nous entendons des bruits, des musiques diverses. On peut entendre des publicités, on peut entendre toutes sortes de messages, et nous entendons ça bien souvent d'une façon distraite, d'une façon superficielle. C'est vrai, c'est comme ça. Mais il est écrit « Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Amen. Et la bonne manière d'écouter, celle qui nous amènera le plus de bénéfices de la part de Dieu, c'est d'écouter comme des disciples. Comme des disciples écoutent leur maître. C'est pour ça que vous avez encore ce beau passage d'Ésaïe 50, verset 4, où il est écrit « Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Et quand on écoute de cette manière-là, et à ce moment-là, effectivement, le Seigneur nous donne une langue exercée pour soutenir ceux dont l'esprit est abattu. Amen. Et on voit cela. Et qui dira la grandeur des bénédictions qui viendront sur ceux qui savent écouter la parole de Dieu avec un cœur bien disposé. Et que nous puissions donc faire silence dans nos âmes, parce que ça aussi c'est important, hein, donc que nous puissions écarter pour un temps les soucis, les préoccupations, les problèmes, que nous puissions mettre toutes ces choses de côté, ces choses qui veulent nous assaillir, ces choses qui veulent nous distraire, et que nous puissions ainsi laisser descendre sur nous cette fraîche rosée de la parole de Dieu qui peut sauver nos âmes. Amen. Première chose, la nécessité d'écouter. Ensuite, la deuxième nécessité qui suit immédiatement, c'est celle de bien saisir le grand principe qui régit les relations entre Dieu et l'homme. Vous voyez cela, suite du verset 2 là, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » C'est vrai que, est-ce qu'on peut qualifier ça de réciprocité? Alors on va dire, ben voilà, mais Dieu attend qu'on fasse un pas. Mais vous savez, c'est bien notre tour de le faire, le pas. Parce que tu as fait tellement d'autres pas avant d'arriver jusqu'à nous, que le dernier pas, il attend que ce soit nous qui le fassions. Donc il faut se dire cela. Il nous a déjà tellement donné, il nous a donné la vie, la respiration et toute chose. Il nous a placés au milieu d'une création magnifique. Et il nous a donné la révélation de la magnificence de cette création dont nous faisons d'ailleurs nous-mêmes partie. Et il nous a aussi donné toutes sortes de promesses qui sont autant d'encouragement à nous approcher de lui. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia. Ou encore, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Voyez comme le Seigneur insiste. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Alléluia. Et il continue plutôt en disant, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Amen, amen. Et bien d'autres promesses encore qui sont des encouragements pour tout homme, quel que soit son état, quelle que soit sa situation, quelle que soit sa position, à chercher le Seigneur. Chercher sa face, chercher sa présence, chercher sa révélation, chercher sa volonté, venir à lui avec confiance. Amen. Et ceci est valable, je dirais, tant du point de vue de chaque individu que même de celui des peuples et des nations en général. C'est pour ça qu'il est encore écrit, ça c'est dans 2 Chroniques 7, au verset 14, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alléluia. Quelle belle promesse! Et il est bien clair que si les hommes se tournaient vers Dieu comme ils devraient le faire, comme ils sont invités à le faire, et comme ils pourraient le faire s'ils le voulaient, eh bien, les grands maux, les grands problèmes auxquels notre triste monde est confronté, eh bien, ça trouverait rapidement de très bonnes solutions. C'est ça la réalité. Et en même temps, ce texte souligne aussi la liberté de chacun, vous savez. Parce que c'est vrai, on peut chercher Dieu, ou on peut ne pas le faire. Dieu ne va pas nous forcer à le chercher. On peut s'attacher à Dieu ou on peut l'abandonner. Alors après, il y a des conséquences, évidemment. Des conséquences suivent dans les deux cas. Mais vous savez, la liberté nous amène toujours à assumer les conséquences de nos choix. C'est quand même aussi cette réalité. C'est donc bien moi, au bout du compte, qui décide si je veux m'approcher de Dieu ou si je vais négliger de le faire. C'est moi qui décide si je veux chercher les bénédictions de Dieu ou si j'en serai privé. Et puis au bout du compte, si je serai sauvé ou si je suis perdu. Voilà, c'est moi qui décide ça. Et ce passage nous le laisse bien comprendre. Et puis, nous avons une troisième grande nécessité, celle de réaliser les trois fondements, les trois bases sur lesquelles quelque chose de solide, d'immuable, d'éternel et de vraiment valable peut être construit. Et c'est ce que nous avons dans le verset suivant, c'est-à-dire le verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigne, ni loi. Trois choses. Un triple manque. Un manque de vrai Dieu, un manque de sacrificateur qui enseigne vraiment la parole de Dieu et un manque de la loi divine. Hein, voilà. Et donc, ce manque de vrai Dieu, vous savez, l'homme est un animal religieux. Hein. Quelqu'un dit ça fort justement. Et depuis la plus haute antiquité, depuis que l'homme existe en tant que tel, il en a été ainsi. Et c'est pour ça que le monde est rempli de temples, d'idoles, d'églises, de ziggourats, de pyramides, de mosquées, de cathédrales, d'autels. Et c'est pour ça qu'il y a un tel foisonnement de religions, de traditions, de messages, de philosophies, de croyances. Et notre époque n'est pas en reste des précédentes, bien au contraire. Hein. La multiplication est encore plus grande, mais dans tout ça, où est le vrai Dieu? Dans tout cela, où est le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu agissant, le Dieu qui conduit dans le bon chemin, le Dieu qui exauce la prière, le Dieu qui, dans sa compassion, dans son amour, accueille ceux qui viennent à lui avec un cœur bien disposé. Ah voilà, c'est ça qui est important. Et au-delà des religions, au-delà des mouvements, au-delà des règles et des lois qui peuvent nous avoir été inculquées, souvent depuis notre plus tendre enfance, n'est-ce pas ce Dieu-là qu'il nous faut chercher sans nous lasser jusqu'à ce que nous le trouvions? C'est ça qui est important. Rien de valable, rien de solide, rien de durable ne se fera en nous et par nous tant que nous n'aurons pas cette première base dans notre vie et tant que ce Dieu ne sera pas à la bonne place, c'est-à-dire dans notre cœur. Et je dirais même sur le trône de notre cœur. Amen. Après, vous avez un deuxième manque que le prophète met en évidence dans la suite du verset 3. C'est le manque de sacrificateurs qui enseignent. Vous savez, des religieux, des ecclésiastiques, il y en a toujours eu, hein, de toutes sortes d'obédiences, de toutes sortes de théoriciens, des philosophes en tout genre. Et en Israël, en ce temps-là, il y avait des sacrificateurs, il y en avait. Mais il n'y avait pas, ou beaucoup trop peu, qui enseignaient la parole de Dieu. C'est ce que l'homme de Dieu est obligé de constater. On manquait de véritables hommes de Dieu qui, à la fois, prêche la parole divine et qui apportait, à ce moment-là, il fallait qu'ils apportent les sacrifices, qu'ils puissent couvrir les péchés de leurs auditeurs et les aider à recommencer une vie nouvelle avec le secours de Dieu à sa gloire. Voyez-vous, il fallait que les sacrifices soient offerts, mais que l'enseignement aussi soit apporté en même temps, pour que les gens comprennent de quoi il s'agit et que ce n'était pas juste une tradition à suivre, mais qu'il y avait un sens profond, spirituel derrière les choses. Et ça, les sacrificateurs, c'est ce qu'ils auraient dû faire. Et le plus grand des sacrificateurs et des enseignants a été bien évidemment le Seigneur Jésus. Il a été infiniment plus grand que tout autre homme de Dieu qui ait pu y avoir sur cette terre, qui ait pu exister. En effet, il est lui-même la parole de Dieu, déjà. Il est la parole de Dieu vivante, il est la parole de Dieu faite chair, il est la parole de Dieu incarnée. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses qui ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes, la lumière lui dans les ténèbres, et les ténèbres, hélas, ne l'ont point reçue. Et nous savons que cette parole, eh bien, c'est ce qui a été faite chair, qui a demeuré parmi nous pleine de grâce, c'est de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire semblable à celle du Fils unique, venu du Père. Amen. C'est dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Et c'est lui-même la parole de Dieu aussi, parce qu'il l'a entièrement accompli. Hein, ça aussi, c'est quelque chose. Il n'a jamais failli en rien. Il a accompli dans sa course terrestre la totalité de la volonté de Dieu pour sa vie ici-bas. Totalité de la volonté du Père Céleste. Et il est le seul à jamais avoir accompli cela. Et c'est à cause de cela qu'il dépasse infiniment tout autre enseignant de la parole de Dieu. Et puis aussi, en plus, il est infiniment supérieur à n'importe quel sacrificateur, puisqu'il s'est offert lui-même en sacrifice pour les péchés de l'humanité, pour les vôtres, pour les miens. Et ce sacrifice est parfait. Au contraire de ce que les sacrificateurs humains, même les mieux disposés, avaient jamais pu offrir. Hein, donc, parce que eux, eh bien, tous sont pécheurs, et donc leurs sacrifices sont tous imparfaits. Mais lui étant parfait, son sacrifice est saint, son sacrifice est sans tache, c'est le seul qui soit vraiment sans défaut devant Dieu. Alléluia. Et quelle est donc la responsabilité, le devoir de tout vrai serviteur de Dieu aujourd'hui? Comment se montrera-t-il un sacrificateur qui enseigne, fidèle à Dieu, et dont le monde a plus que jamais un si grand et si urgent besoin? Eh bien, c'est celui-là qui va mettre en avant la personne de Jésus. Il va mettre en avant le sacrifice de Jésus, l'enseignement de Jésus, la seigneurie de Jésus, la gloire de Jésus. Et ça doit être notre grand objectif aujourd'hui et notre grand thème continuellement. Amen. Hein ? Alors souvenez-vous donc que c'est bel et bien en Jésus que se trouve cette deuxième grande base sans laquelle il n'y aura aucun salut possible, aucune bénédiction qui puisse être acquise. Attachons-nous donc étroitement à son enseignement, à ses enseignements et à son sacrifice. Amen. Et puis le troisième manque que pointe le prophète, c'est le manque de loi. Hein, donc, le dernier point de cette trilogie, nous avons besoin de la loi de Dieu qui, est-il écrit, est sainte, juste et bonne. Hein. Les hommes ont passé à divers moments, surtout des moments de décadence de société, vous pouvez voir ça un peu lorsque vous étudiez l'histoire des sociétés, vous pouvez le voir, eh bien, vous voyez que dans ces moments de décadence de société, la norme divine était spécialement rejetée, les vérités les plus absolues étaient discutées, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et je ne crois pas exagérer en disant que nous sommes en plein dans une telle période, aujourd'hui, avec bien sûr toutes les conséquences que ça implique pour beaucoup, comme perte de points de repère, comme désordre néfaste en tout genre. Et voici une citation de la revue Bonheur de la Caisse d'allocation familiale. Hein, voilà. Caisse d'allocation familiale, une revue qui s'appelle la revue Bonheur. Ça montre qu'ils ont des bons désirs pour les gens. Et voilà donc, le titre de l'article, c'est « On demande parents rock ». Des parents qui sont des rocs, quoi. Pour Joël Yves Le Bigot, le président de l'Institut de l'Enfant, les adolescents sont en panne d'épanouissement. Dès le collège, la moitié d'entre eux sont catalogués, noyés, victimes de rythmes scolaires insensés et d'un collège unique qui a fourni la preuve de son efficacité. On leur disait que tout était permis, ils s'aperçoivent que rien n'est possible. Jusqu'à 10 ans, les parents les espèrent polytechniciens. À 15, ils supplient qu'on les accepte en lycée professionnel. Les adultes baissent les bras. Bien sûr, les parents sont plutôt sympas. Trop ? Les adolescents jurent qu'ils seront avec leurs enfants beaucoup plus stricts et exigeants. Non aux parents édredons. Ils veulent des parents rock sur lesquels pouvoir compter. Moins des maîtres à penser, plus des maîtres à se conduire, c'est-à-dire des adultes qui ont une ligne de vie claire et cohérente, que l'on peut d'ailleurs admirer ou contester. Ils se désespèrent de voir des adultes paumés, louvoyants, et ne montrant d'eux-mêmes qu'une triste figure. Voilà. Que disait le prophète Ésaïe en son temps, hein ? Il disait « À la loi et au témoignage ». Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux vers en haut, puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité, de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. » Ésaïe chapitre 8, versets 20 à 22. Et par contraste avec cela, combien la loi de Dieu est bien réglée et offre une pleine sécurité à ceux qui la reçoivent, et il vaut la peine d'y attacher notre cœur, notre vie. Nous avons besoin de ces trois grandes bases si nous voulons construire quelque chose de valable dans nos vies. Amen. Et puis nous en arrivons à notre quatrième grande nécessité, au verset 4 en même temps. Considérons le témoignage de ceux qui ont cherché et trouvé Dieu. Parce que, au sein de leur détresse, dit le prophète, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël, ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Voilà, c'est un témoignage. Et il est parlé de ceux qui ont trouvé le Seigneur, de ceux qui sont retournés à lui, parce qu'ils ont voulu bâtir à nouveau sur ces fondements dont il a été parlé juste auparavant. Et de quel prix extraordinaire est leur témoignage lumineux dans cette période de ténèbres et de désordre. Et ce témoignage est un témoignage de valeur. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il s'agit de paroles qui donnent l'espérance, hein, de paroles qui sont positives de ce point de vue-là, des paroles qui sont accompagnées aussi d'actes d'amour, de bonté, de foi, qui proviennent d'une vie qui est réellement changée, et parce qu'il y a de toute évidence des exaucements divins, il y a une faveur divine sur ces vies-là. Et de témoignages, des témoignages comme ça, vous savez, on ne peut pas les écarter facilement, surtout si on a un cœur honnête et droit, hein, si on est sincère. Et aujourd'hui encore, eh bien, que ceux qui ont rencontré le Seigneur, ceux qui ont fait l'expérience de sa grâce, l'expérience de sa bonté, eh bien, se rappellent que leur témoignage est puissant. Leur témoignage même de vie, leur témoignage de parole, c'est quelque chose qui a une puissance. Et qu'ils puissent donc témoigner simplement et hardiment de la fidélité de Dieu, de la bonté de Dieu et de la puissance de Dieu à leur égard. Amen. Et quant à ceux qui entendent ce témoignage, eh bien que cela puisse les pousser à considérer avec sérieux les choses de Dieu, ce Dieu qui est capable d'agir si merveilleusement aujourd'hui encore et qui désire le faire dans leur propre vie aussi. Amen. Amen. Notre cinquième nécessité, elle nous parle du fait de réaliser la cause profonde des troubles qui agitent le monde. Hein, vous lisez là les versets 5 et 6. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Des ressemblances encore étonnantes et frappantes entre ce qui est écrit là et ce que nous pouvons voir autour de nous. Hein. Point de sécurité pour ceux qui vont et viennent, de grands troubles pour les habitants du pays. Voyez toutes les inquiétudes, voyez toute l'hostilité qu'il y a dans notre monde. Hein. On se heurte peuple contre peuple. Voilà, voilà. Donc nous ne sommes pas là ce soir pour faire, je dirais, le tour détaillé des maux de notre époque, mais vous connaissez la montée de l'insécurité, voilà, l'extension tentaculaire des mafias en tout genre, hein, vous savez, l'augmentation des inquiétudes des gens à cause de leur avenir, à cause du devenir du monde, à cause de la sécurité de l'emploi, de l'aggravation sans fin, de la crise économique, écologique et autres. Et vous avez vu le développement du nationalisme avec tout ce cortège de guerres souvent fratricides et qui atteignent, hélas, les sommets de l'horreur. Voilà, et on pourrait citer encore de cela bien des exemples. Mais vous savez, on peut, à ce moment-là, vous avez des gens, ils vont lancer des accusations faciles, hein, qui consistent voilà, à se décharger sur Dieu, de leur bile peut-être, et de leur propre responsabilité, du genre, voilà, si Dieu existait, ben, on ne devrait pas y avoir ceci, puis il ne devrait pas se passer cela. Nous savons bien que les choses ne sont pas si simples. Hein. En réalité, il y a des choses que Dieu permet, mais qu'il n'a pas voulu. Chose que Dieu ne veut pas, mais il est obligé de les supporter parce qu'il a créé l'homme libre. Hein. Il a créé l'homme libre de faire des choix. Donc, ben voilà. Donc, il y a des choses que Dieu permet, mais qui ne sont pas dans sa volonté. C'est une réalité. Il y a des choses que Dieu veut, des choses que Dieu désire, donc des choses qu'il approuve. Et puis, il y a des choses aussi que Dieu utilise, qu'il utilise pour sa gloire, ainsi ces fameuses angoisses dont il est marqué, par lesquelles il agite toutes sortes d'hommes pour les pousser, si possible, à venir à lui. Parce que c'est ça l'objectif. Dieu n'angoisse pas les gens pour les angoisser. Hein. Dieu, il n'a pas cette finalité-là. Non, c'est la nécessité de que les cœurs soient travaillés pour qu'ils soient attirés à lui, pour qu'ils viennent à lui. Et je dirais que la base de tous ces mots, eh bien, c'est que les hommes ont ce cœur qui est rebelle, qui ne veut pas revenir au Seigneur du sein même de leur échec et de leur égarement trop souvent. Et c'est quand on est ainsi, je dirais, enfin à la racine du mal, quand cette racine du mal est reconnue, quand elle est acceptée, c'est à ce moment-là que l'œuvre de guérison va pouvoir commencer à s'opérer. Amen. Et notre sixième nécessité, c'est celle maintenant de se fortifier et de se mettre à l'œuvre. C'est ce qu'on voit au verset 7, début du verset 7. Vous donc, fortifiez-vous. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Il faut se fortifier déjà intérieurement. Hein. Se fortifier avec de bonnes résolutions, avec une conviction. Se fortifier en se mettant à l'œuvre et se fortifier avec le secours du Tout-Puissant. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire, hein, rien de valable en tout cas aux yeux de Dieu. Mais en pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que nous allons faire pour nous fortifier? Eh bien, nous avons là heureusement l'exemple d'Asa qui suit, hein, qui nous est donné dans les versets 8 à 15. Et qu'est-ce qu'il a fortifié? Eh bien, ce qu'il a fortifié déjà, en premier, c'est qu'il a entendu, il a tenu compte de la parole de Dieu. Hein, c'est marqué au début du verset 8. Après avoir entendu ces paroles de la prophétie de le prophète, Asa se fortifia. Hein, donc on voit ça. Première chose, et c'est pour ça que nous avons besoin de nourrir notre âme, de la prédication de la parole de Dieu, de venir l'écouter, de la lire, de la méditer, parce que ça nous fortifie. Ça nous fortifie intérieurement. Et ensuite, vous avez la disparition des idoles. Hein. Ça, c'est la deuxième chose. Hein. Donc, ça a été un moyen de fortifier Asa. C'est la suite qu'on voit, la suite du verset 8. Il a fait disparaître toutes ces idoles. Et quand Dieu voit que nous agissons comme ça, il nous donne un renouveau de force. Alléluia. Et les obstacles à l'exaucement sont enlevés de cette manière-là. Et la parole de Dieu dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Et cette parole, donc, se trouve pleinement réalisée. Et si j'avance encore, eh bien je vois qu'il a rétabli l'autel de Dieu pour le servir. Ça, c'est aussi la fin du verset 8. Et ça, c'est encore un point important par lequel Dieu va nous fortifier. Dès que quelqu'un réalise vraiment et met en pratique ce que nous voyons là, et que c'est pour servir Dieu, si quelqu'un réalise que notre vie est faite, nous a été donnée pour le fait de pour servir Dieu. Les gens se posaient, qu'est-ce que je suis venu faire dans cette vie? Je n'ai pas demandé à y venir. Moi non plus, personne n'a demandé à venir, évidemment, hein, puisque c'est Dieu qui nous donne la vie au départ. Hein. Mais Dieu nous donne la vie pour le servir. Et quand on a compris ça, et quand on rentre là-dedans, là, il y a une force divine qui descend sur nous, alléluia. Et une force divine qui va nous accompagner, et qui va nous renouveler, et nous vivifier en toutes choses. Et tant qu'on n'a pas compris ça, eh bien, on restera dans notre marasme, dans notre misère, on restera tourné en rond dans nos problèmes et on ne s'en sortira pas. Mais le jour où on comprend ça et puis on se décide, oui Seigneur, maintenant je veux te servir, eh bien là, on va être fortifié. Alléluia. Le rassemblement du peuple de Dieu, que nous voyons au verset 9, il rassembla tout Judas, Benjamin, et ça aussi, c'est un moyen indispensable d'être fortifié. C'est un moyen à ne pas négliger, hein, que de promesses de la part du Seigneur pour ceux qui se rassemblent en son nom. Et que de personnes qui sont venues à l'Assemblée affaiblies, abattues et qui sont reparties à la fin d'une réunion, fortifiées, encouragées. Parce que c'est là que le Seigneur répand son huile sainte, sa vie et sa bénédiction pour l'éternité. Amen. Et si je poursuis encore, eh bien je vois aussi qu'au verset 11, ils ont fait des sacrifices à Dieu. Hein? Alors le premier sacrifice qu'ils ont fait, c'est évidemment celui de leur obéissance. Parce que s'ils avaient fait toutes sortes d'autres sacrifices, mais pas celui de leur obéissance, ça n'aurait rien valu. Hein? Donc, mais c'est ce qu'on fait, donc, c'est le désir de lui obéir. Et voilà, ces gens-là, ils ont compris, nous on vient venir à Dieu déjà par reconnaissance. On ne va pas venir à Dieu en premier pour lui demander encore des choses. On ne va pas être juste des quémandeurs, mais on ne va pas être juste des sangsues qui disent « donne, donne » et qui veulent toujours recevoir. Mais on va être de ceux qui apportent à Dieu avec reconnaissance à cause de tout ce qu'il a fait et de tout ce qu'il a été pour nous déjà. Et voilà, ça c'est encore un bon moyen d'être fortifié par la bonté et la puissance de Dieu. Amen. Et voyez cet engagement qu'ils ont pris avec joie. Hein, donc verset 12, verset 14, et ça aussi c'est une source de force, d'autant plus que la joie du Seigneur sera notre force, alléluia, hein, donc, et Dieu attend que nous nous engagions dans ses voies, et là il veut nous fortifier, et il ne veut pas que nous le fassions d'une façon contrainte, d'une façon forcée, là il nous a dit qu'ils l'ont fait de façon volontaire, bon après je crois qu'il faut que nous ayons un petit peu d'indulgence envers eux, parce qu'ils ont dit que ceux qui ne chercheraient pas le Seigneur allaient être punis de mort. Hein. Bon, heureusement, ça ne s'est pas manifesté par des exécutions dans la suite. Je pense que c'est dans l'enthousiasme de leur engagement que cela s'est fait à ce moment-là. Mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment celle-là, et il est important que nous puissions aussi la saisir. Et nous voyons enfin, l'insistance est remise là-dessus, donc... l'importance de chercher le Seigneur. Donc, car ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Alléluia. Béni soit Dieu. Cette réalité-là, eh bien, c'est important. Si on cherche Dieu, on le trouvera. Et alors, quelle source de vie, quelle source de force inépuisable que nous avons en lui. Et à ce moment-là, eh bien oui, comment Dieu va pouvoir se glorifier. Amen. Enfin, cette dernière nécessité, celle de croire à la récompense. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y aura un salaire pour vos œuvres, fin du verset 7. Et cette récompense précieuse, excellente, glorifiante, qui apporte avec elle toute plénitude, et plusieurs allusions, ils sont déjà faites dans notre texte, nous le voyons. Hein. Déjà, il est marqué un salaire pour les œuvres, pas seulement pour les intentions, hein, mais pour les œuvres. C'est-à-dire, il faut s'engager dans l'œuvre de Dieu. Hein. Il faut se mettre en route, se mettre en œuvre, et le salaire va suivre. Voilà, c'est déjà important. Et puis, on voit que l'Éternel, à ce moment-là, sera avec nous. Et ça, c'est quelque chose de bien visible, parce que lorsque vous regardez, là encore, dans le verset 9, hein, il est marqué, il y a toute une série de gens qui sont venus les rejoindre, il est marqué, lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Hein, fin du verset 9. Voyons cela. Donc, c'est quelque chose de tangible pour des spectateurs attentifs. Et puis ensuite, on voit que Dieu aussi se laisse trouver par ceux qui le cherchent de leur plein gré de tout cœur. C'est marqué là encore dans le verset 15. Et on voit ensuite encore en plus un quatrième évidence de cette récompense, déjà, de cette récompense, c'est le repos que Dieu leur donne de tous côtés. Hein. Ce qu'on voit aussi dans ce verset 15, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème, mais ça veut dire que si on fait pleinement confiance au Seigneur, c'est lui qui va nous donner des solutions. Amen. Il y a un repos qui est réservé au peuple de Dieu. Alléluia. Il y a une paix de Dieu qui surpasse toute intelligence pour ceux qui se confient en lui. Il y a une paix divine qui descend dans le cœur, et que ces précieuses réalités puissent être notre expérience à chacune et à chacun, aujourd'hui en particulier. Alléluia. Alors, considérons en conclusion la nécessité de nous attacher au vrai Dieu, déjà, hein, pas une religion, quelque forme que ce soit. La nécessité de nous lier à l'enseignement et au sacrifice de Jésus. Alléluia. La nécessité de la loi divine, cette parole de Dieu qui est structurante et qui est fortifiante pour nous. Et puis la valeur aussi des témoignages à la gloire de Dieu. Et enfin la grandeur des promesses du Seigneur qui ne peuvent pas manquer de s'accomplir pour ceux qui s'attachent à lui et se confient en lui. Amen. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu de ce que nous voyons dans ta parole, que ce soit des exemples anciens ou plus récents, nous voyons cette même réalité de ta fidélité, de ta vérité, Seigneur, du fait que tu prends soin de ta parole pour l'exécuter, du fait que tu suis ta parole et que tu ne laisses tomber à terre aucune de tes propres paroles. Merci, notre Sauveur. Oh, tu es le Dieu qui accomplit tes promesses. Tu es le Dieu fidèle et juste. Tu es le Dieu fidèle et bon. Merci, notre Dieu. Louange à toi. Et béni sois-tu parce que ce soir encore, mais lorsque quelqu'un se tourne vers toi, tu es encore là pour l'accueillir, pour le recevoir. C'est vrai, tu as fait tant de pas dans notre direction, mais tu attends que le dernier pas, eh bien, soit nous qui le fassions dans ta direction. Et que nous nous précipitions dans tes bras, et que nous nous abandonnions à toi, que nous abandonnions nos vies à ton amour, Seigneur.